France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Davos ce soir.
Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. Under the Trump administration, there will be no better place on earth to create jobs.
Venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas du monde. Sous mon mandat, il n'y aura pas de meilleur endroit au monde pour créer des emplois, construire des usines, développer des entreprises. C'est Donald Trump qui s'est adressé au parterre des hommes d'affaires et des banquiers de Davos il y a moins d'une heure. Maintenant, bonsoir Jean-Marc Daniel.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Il a vendu les États-Unis, Donald Trump. Il a été le meilleur VRP des États-Unis. Il faut quand même dire que derrière cette phrase, il y a aussi, si vous ne le faites pas, tant pis pour vous, vous m'enrichirez avec les droits de douane. Est-ce que ce qu'il dit au milieu d'affaires, c'est « vous êtes avec moi ou contre moi » ?
Oui, c'est un peu « vous êtes avec moi ou contre moi » et puis il s'adresse à ces milieux d'affaires locaux. C'est-à-dire, il dit de toute façon, les gens qui seront vos concurrents, soit ils seront sur place, soit de toute façon, je les empêcherai de vous concurrencer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que il fait appel à des étrangers pour venir investir aux États-Unis. Mmh. Mais ça veut dire que le travail américain va servir à payer les dividendes des entreprises étrangères. Et c'est une certaine rupture intellectuelle avec ce qu'a été la politique économique des États-Unis, grosso modo, sous les démocrates singulièrement, à l'époque aussi bien de Kennedy que de Clinton, qui consistait à dire, au contraire, on va aller acheter les usines à l'étranger pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre pas chère, parce que la main-d'œuvre à l'étranger est moins chère que la main-d'œuvre américaine, et voir les bénéfices des entreprises que nous aurons placées à l'étranger. Et donc, c'est une stratégie qui est une stratégie un peu de pays qui se sent moins fort, moins puissant qu'il ne l'a été. Il a besoin des capitaux, de la technologie, du savoir-faire des étrangers qui viennent sur son territoire.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le Trump de 2016 disait exactement l'inverse. Le Trump de 2016 voulait ramener aux États-Unis les entreprises qui étaient parties, elles finançaient les entreprises qui voulaient relocaliser. Là, il va chercher les autres, en effet.
Là, il va chercher les autres. Effectivement, c'est un peu un aveu du fait que le capitalisme américain ne dégage plus assez d'épargne pour investir sur son territoire. Donc, il faut faire venir des gens qui sont à l'extérieur. Avec toute une ambiguïté, parce que il va hériter d'un dossier qui est un dossier qui peut paraître anecdotique, mais qui est très important, c'est le fait que les Japonais viennent de racheter la sidérurgie américaine, mmh. et une des dernières décisions de l'administration Biden, c'est de bloquer cet accord, alors que les deux entreprises, l'entreprise américaine et l'entreprise japonaise, étaient d'accord pour le rachat par les Japonais.
Trump aussi était d'accord pour le blocage pendant la campagne, d'ailleurs.
Oui, absolument. Ouais. Et Trump a dit, je comprends ça. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants japonais ont dit, nous, on n'achète pas ces entreprises pour les fermer, on les achète pour les développer. Mmh. Donc, c'était plutôt dans la logique de ce que raconte Trump, d'une part, et d'autre part, les Américains ont dit, effectivement, nous, on est tout à fait disposés à utiliser les Japonais, ça va effectivement favoriser notre développement, parce qu'il y a un certain savoir-faire que nous avons perdu. Et Trump, lui, il dit un peu la même chose, il devrait être d'accord avec cet accord, c'est-à-dire c'est des étrangers qui viennent nous apporter une forme de savoir-faire que nous avons en partie perdu.
Mais est-ce que ça peut fonctionner de dire ça réellement? Est-ce que là, du jour au lendemain, pardon de caricaturer, mais il y a des gens qui vont se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, allons fabriquer nos voitures aux États-Unis, sincèrement ?»
Alors, il y a des gens qui vont le faire en se disant « Effectivement, on va récupérer l'argent des contribuables américains, d'une certaine façon. Je me mets à la place des dirigeants des entreprises européennes. C'est le fisc américain va subventionner nos dividendes. Pourquoi ne pas y aller ?» Et en plus, les entreprises européennes...
Mais donc, ça veut dire que l'argument qui dit « Sinon, de toute façon, je vais vous taxer et donc votre argent sera dans mes poches », ça, c'est un argument efficace pour les Européens, par
exemple. Les Européens, c'est un argument assez efficace. Alors, ce qu'ils ne voient pas, et c'est qu'ils ne dit pas, c'est deux choses. La première, c'est que ces droits de douane, à la fin des fins, c'est sa population qui va les payer.
Ouais. Et, avec l'inflation.
Avec l'inflation. Et donc, elle va les payer immédiatement parce que, notamment sur la Chine, à chaque fois, il a dit, les Européens, les Chinois, ils sont unfair, c'est-à-dire c'est injuste. Il a posé l'affaire sur un terme moral, en plus. Il dit, et donc, mais il ne dit pas que c'est les produits chinois, c'est sa population et la partie la plus pauvre, la moins favorisée de la population qui achète des produits chinois. Et donc, il va falloir d'une façon ou d'une autre les compenser. Et puis cette inflation qui va importer, la réserve fédérale sera obligée de réagir d'une façon ou d'une autre. Et la façon la plus simple pour la réserve fédérale, ce sera d'augmenter les taux d'intérêt. Donc on va vers une équation assez compliquée. Le dernier élément de l'équation, c'est que faire venir des entreprises étrangères, les États-Unis l'ont beaucoup fait à la fin du 19e siècle, sur la base de, on fait venir les capitaux européens et les Européens. Les Européens vont s'installer chez nous. Et donc, on aura à la fois les usines et la main-d'œuvre. Sauf que là, la main-d'œuvre, il dit, il faut qu'elle s'en aille. Et donc, on est dans un pays qui est déjà en situation de tension sur le terme du chômage. C'est pratiquement le plein emploi. Et il dit, je vais en plus supprimer toute une partie de la population.
Donc vous avez du mal à trouver ça très cohérent, Jean-Marc Daniel, en fait. Là, je vous écoute, je vous sens très dubitatif. En fait.
Je suis assez dubitatif. Et je pense qu'effectivement, il va se heurter à tout un tas de contradictions en interne. Il y a deux choses, quand même, qui sont assez concrètes quand il parle du département. Sur la baisse des dépenses, des dépenses publiques. Là, il rejoint sur le diagnostic beaucoup de gens qui consiste à dire que le déficit fédéral, le déficit du budget est tel qu'il va falloir prendre des mesures. Donc, Elon Musk est là pour réduire les dépenses. Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor sortante, avait dit qu'il faut envisager qu'il va falloir aussi augmenter les impôts. On a 2000 milliards de déficit budgétaire aux États-Unis et au dernier trimestre, c'est le constat qu'a fait Janet Yellen, elle a dit qu'on a dépassé 700 milliards de déficit sur le dernier trimestre, les finances publiques sont hors de contrôle. Et donc là, il a dit, la charge d'intérêt devient un vrai problème.
Alors, mais est-ce que ça veut dire que, puisqu'il fait ça, puisqu'il rabote de son côté, tout le monde va de toute façon devoir raboter derrière, en fait. Si on ne suit pas cet élan-là, on finira par avoir des problèmes. Donc, est-ce qu'il donne un ton là-dessus? Est-ce qu'il l'oblige, en gros, à une politique à peu près similaire, tous les pays qui l'entourent, tous les pays avec lesquels il commerce, en tout cas?
Alors, les pays avec lesquels il commerce, il est évident que ces pays-là vont se heurter à deux éléments. Le premier élément, c'est que s'il fait véritablement une politique d'austérité, il y a une partie de la demande américaine qui, systématiquement, va disparaître, va s'éroder. Et le deuxième élément, c'est que les droits de douane, si c'est les Américains qui les paient, ça va quand même amputer leur pouvoir d'achat, et donc, d'une certaine façon, ça va réduire leurs débouchés. Donc, l'enjeu pour les pays autour, c'est pour un certain nombre de pays, c'est de s'interroger sur comment trouver des substituts aux débouchés américains. C'est-à-dire que la bonne réponse des Européens, ça doit être effectivement d'aller chercher les subventions, les 15% de baisse d'impôt qu'il annonçait aux États-Unis, et puis d'aller chercher des débouchés dans les pays où il y a de la forte croissance. De se dire que les États-Unis, en tant que lieu de débouchés, sont appelés à perdre une partie de leur rôle.
Vous parliez de l'Europe, justement, du rôle que peut avoir l'Europe. Vous disiez, s'agissant des Chinois, qu'il avait dit tout ça est pas juste, unfair, c'est le mot qu'il a prononcé très souvent. Il le dit aussi précisément à propos de l'Europe. Écoutez-le.
EU treats us very, very unfairly, very badly. I love Europe. I love the countries of Europe, but
L'Europe nous traite très très mal. J'aime l'Europe, mais elle nous traite mal.
Elle nous traite mal, oui, c'est badly unfair. On est méchant et injuste. Et en plus, il a dit. Alors, il a dit aussi l'Europe. Elle a mis des. Non seulement elle dégage des excédents extérieurs sur nous. C'est effectivement un des principaux déficits des États-Unis sur le plan commercial. L'Europe. Et puis, elle taxe nos entreprises. C'est-à-dire, il a rappelé que Google, Apple obligés de payer des amendes au nom de la concurrence. Alors, il ne dit pas que symétriquement, les entreprises européennes ont ramassé un certain nombre d'amendes, notamment après la crise financière de 2008-2009. Les banques européennes ont été assez violemment secouées par le système judiciaire américain.
Mais justement, pendant cette période-là, et toute la régulation dont Donald Trump voudrait pouvoir se débarrasser, pas toute, mais enfin en partie, toute cette régulation, elle date effectivement de cette période-là, la période post-crise des subprimes, crise 2008, crise 2009. Quand il parle de déréguler, je pense à la dernière question de cette dame qui était banquière, par exemple. Oui. Quand il parle de déréguler, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Est-ce que ça veut dire revenir, effectivement, à une période pré-subprime, c'est-à-dire où c'était Royal au bar pour à peu près tout le monde? Est-ce qu'on imagine quelque chose de différent? Ça veut dire quoi, déréguler?
Je crois que déréguler, pour lui, c'est sur deux secteurs. Effectivement, sur le secteur bancaire et financier, il a dit à plusieurs reprises que les banques ne font pas leur travail. Il l'a dit lorsqu'il y avait un banquier américain qui lui a posé la question. Il lui a dit lorsque la présidente de Santander, effectivement, lui a posé la question. Et il a dit les banques ne prêtent pas assez. Les banques ne soutiennent pas assez l'activité économique. Et puis, la dérégulation, c'est surtout l'aspect environnemental. Il a dit, et ça c'est une phrase que j'ai trouvée très très forte et très intéressante, on va être obligé de doubler la production d'électricité dans les 4 ans qui viennent pour faire face au développement de l'intelligence artificielle. Donc, les gens de la tech qu'on voit derrière sont aussi des gens qui sont en train de constituer sa manière de voir l'avenir de l'économie américaine. Et avoir de l'énergie, de l'électricité, il l'a dit, c'est accepter de continuer, voire d'augmenter la production de pétrole et la production de charbon.
Exactement, il a parlé du charbon, en effet, en se disant que de toute façon, il n'était pas question d'arrêter quoi que ce soit en matière de charbon. Qu'est-ce que ça change pour nous, ça, en fait ?
Alors, ça change pour nous le fait que, là aussi, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va réagir ? Et donc, l'Europe, elle a prévu, en théorie, elle devrait mettre en place systématiquement une taxe carbone, un mécanisme de taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire que toute la réflexion de l'Europe et Madame von der Leyen à Davos, hier ou avant-hier, a rappelé que la décarbonation de l'économie restait une priorité de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle s'est posée véritablement dans une situation en opposition au discours dominant que véhicule Donald Trump. Et donc, la réponse, c'est de dire, nous, on ne fera pas de droits de douane, nous, on ne va pas empêcher les produits américains de rentrer, mais on va mettre un prix du carbone, et ce prix du carbone, on va le répercuter sur la production américaine ou sur la production asiatique.
Il y a, en préparant cette émission, je tombe sur cette phrase qui dit que les établissements américains ont monté des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 pour analyser les décisions de la nouvelle administration et l'effet que ça pourrait avoir sur leurs affaires, de véritables cellules de crise qui visent à orienter les actions et conseiller les clients. Est-ce que ça veut vraiment dire que tout est, qui remet tout dans le shaker, en fait, et qu'à chacune des décisions qu'il peut prendre ou qu'il prendra, chaque grosse entreprise ou banque sera obligée de faire un virage. Est-ce qu'on en est là à regarder, effectivement, à monitorer comme ça ?
Oui, je crois qu'il il fait tellement de promesses, il annonce tellement de choses, et encore une fois, des choses dont on a du mal à considérer qu'elles puissent être totalement compatibles les unes avec les autres. Et donc, la question qui se pose, c'est combien de temps il va tenir certains discours, combien de temps il va s'appuyer sur une volonté de mettre en place tel ou tel dispositif, combien de temps il va renoncer à certaines choses, et puis surtout, encore une fois, face à cet énorme déficit budgétaire qui est aussi à l'origine du déficit extérieur, parce que le déficit budgétaire apporte des moyens aux Américains qui achètent, les entreprises européennes, elles vendent à quelqu'un, il y a des gens qui achètent. On est peut-être injuste et méchant, mais il y a des gens qui achètent nos produits. Ouais. Quand il dit il y a trop d'Audi à New York et pas assez de Chevrolet à Berlin, c'est des Américains qui ont acheté les Audi, on leur a pas mis un flingue sur la tempe pour les acheter. Et donc, il va y avoir effectivement des décisions qui vont avoir comme des conséquences qu'il ne mesure pas, qu'il n'a pas prévues, et il n'y a pas de cohérence dans l'ensemble de ces décisions.
Mais du coup, j'ai du mal à vous écouter, à comprendre s'il est en train de la débrider ou de la cafouiller, l'économie mondiale, Donald Trump, en fait.
Il est un peu en train de la cafouiller. Et alors, il y a une chose qu'on ne voit pas, sur laquelle, mais c'est que des héritages de l'administration sortante, c'est de considérer qu'il y a un certain nombre de pays qui sous-évaluent leur monnaie. Et ces pays, c'est effectivement ceux qui sont injustes et méchants, c'est-à-dire la Chine, l'Europe, le Vietnam. Et donc, là aussi, je pense qu'il va y avoir une stratégie de la part des Américains pour essayer de baisser le dollar, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une vraie baisse, non seulement qu'il y ait des droits de douane, mais qu'il y ait une vraie baisse du dollar. Et donc, là aussi, ça pourrait mettre en cause un certain nombre d'équilibres au niveau mondial.
Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on vous invite une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, un petit peu pour décrypter comment les choses vont se passer.
Au rythme auquel il fait des promesses, il se contredit, et tout ça, c'est toutes les deux heures qu'il faudra faire.
Restez ici, installez-vous, prenez une valise, merci beaucoup Jean-Marc Daniel, c'était formidable, à très bientôt bien sûr.
Merci, au revoir.
La suite ce soir, ça se passe en Cisjordanie, où Israël a lancé une opération qui s'appelle Mur de Fer, c'est Virginie Pironon qui va nous le raconter. Elle est au nord de Ramallah, pour aller ensemble jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufresne.
En Norvège, où l'arbitrage vidéo dans le foot a peut-être du plomb dans l'aile.
Le Monde à 18h50, c'est Franck Madbon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Trump toujours, j'en ai peur. Hein. On verra pourquoi il faut prendre au sérieux ces menaces visant le canal de Panama.
Et Trump toujours, la tech la première, Stéphane Jourdan.
Oui, bonsoir Fabienne. Anatomie d'une brochette de milliardaires de la tech en majesté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.
Allez, à tout de suite, les amis. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait escale en Californie. The Sacred Soul, Lucid Girl, qui est en playlist sur France Inter. So many times. Le reportage ce soir est en Cisjordanie, vers laquelle les regards se tournent depuis la trêve décrétée à Gaza. La ville de Jénine et son camp de réfugiés sont visés depuis mardi par une opération militaire israélienne baptisée Mur de Fer. Les arrestations de Palestiniens s'y multiplient sous les tirs et les explosions. Et partout ailleurs, la situation devient extrêmement tendue. C'est au nord de Ramallah que nous allons, et c'est Virginie Pironon et Benjamin Thuot qui racontent.
Peint au pochoir, partout sur les murs du camp de Jalazone, des portraits de jeunes hommes tombés en martyrs, comme disent leurs proches, lors d'affrontements face à l'armée israélienne. Ici s'entassent 10 000 personnes environ, et juste au-dessus, sur la colline, la colonie israélienne de Beit Hill, fondée par des ultranationalistes. Ici, les affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne sont quasi quotidiens. Sur la place centrale du camp, devant un monument consacré aux martyrs et un immense portrait d'Abu Ammar, Yasser Arafat, Ibrahim se tient debout grâce à des béquilles.
Un sniper m'a tiré dessus alors que je rentrais chez moi.
La balle a traversé sa cuisse. C'était le 27 décembre. Depuis, ce père de famille au trait creusé cherche en vain par tous les moyens à quitter le camp.
Je vis sous la menace. J'ai peur. Rien n'est entre mes mains. Je vis à 1 kilomètre seulement de la colonie de Beit Hill et ça m'effraie. J'ai peur pour mes 5 filles. Quand les soldats viennent, ils passent juste devant chez moi. J'ai arrêté d'envoyer mon fils à l'école car j'ai peur qu'il lui tire dessus.
Un fils, 17 ans, aujourd'hui en prison comme des dizaines d'autres jeunes hommes du camp, harcelé, dit-il, par l'armée israélienne.
Ça arrive parfois, les incursions dans le camp. Il y a cette journaliste, Rola Hassanine, qui a été libérée dimanche dernier. Ils sont rentrés chez elle dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont détruit sa maison. Et ils ont chié à l'intérieur.
Mais la journaliste avait déjà fui. Un hijab noir encadrant son visage, Oudan, 17 ans, explique que des proches de la journaliste, sa famille, ses voisins, des jeunes âgés parfois seulement de 15 ou 16 ans, ont été brièvement arrêtés.
Il n'y a plus de jeunes ici. Donc maintenant, ils ont commencé à arrêter des enfants. Ils voudraient arrêter tout le monde.
Un cycle qui se répète sans cesse, dit-elle, alors que la vie devient ici infernale pour les habitants.
Les conditions de vie en Cisjordanie sont de pire en pire. Tu passes des checkpoints, tu reviens, il y a encore un checkpoint. Particulièrement pour les gens qui doivent passer d'une ville à une autre, comme de Jenin à Naplouz. Mais ici aussi, à Ramallah, la situation est très mauvaise. Les checkpoints sont toujours fermés. Il faut attendre des heures. Il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer dormir chez eux. La situation empire chaque jour un peu plus.
Derrière le comptoir de sa boucherie, Omar explique que les tensions se sont particulièrement accentuées depuis l'accord de trêve à Gaza et la libération de 90 prisonniers palestiniens le week-end dernier. Mais la situation est explosive, dit-il, et il faut que ça s'arrête.
Mais nous n'avons pas de terroristes ici. Les gens qui vivent sous l'occupation ont le droit de se défendre. Et cette résistance est légale. Nous avons le droit de nous battre. Que les Israéliens partent. Nous aurons notre État. Et vous verrez, nous vivrons en paix.
Après la trêve entre Israël et le Hamas, les habitants de Jalazone disent attendre avec impatience les libérations à venir de centaines de prisonniers palestiniens, mais dans la crainte de voir les arrestations reprendre aussitôt.
Virginie Pironon avec Benjamin Thuot pour le reportage. Merci beaucoup à vous deux. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, c'est d'abord en Serbie que nous sommes, où le mouvement étudiant ne faiblit pas.
Ah oui, les étudiants mobilisés depuis des semaines contre la corruption appellent à la grève générale demain dans tout le pays sur les réseaux sociaux. Ils demandent aux Serbes de ne pas travailler, de ne pas faire leurs courses, de ne pas aller au restaurant pour mettre encore un peu plus la pression sur le gouvernement. C'est la suite de ces grandes manifestations dont on a plusieurs fois parlé ici, hein, depuis le 1er novembre et l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts. Les opposants au gouvernement y voient l'effet de la corruption généralisée en Serbie. La gare venait d'être restaurée, des millions d'euros dépensés, attribués à des entreprises étrangères et au final des malfaçons qui mènent à ce drame. Depuis, plusieurs manifestations ont réuni des dizaines de milliers de personnes à Belgrade et dans les grandes villes du pays. Du côté de l'exécutif, plusieurs ministres ont démissionné, mais le président Aleksandar Vučić accuse régulièrement des agents étrangers, ce sont ses mots, d'être derrière le mouvement.
Et nous sommes maintenant en Afrique du Sud avec un devoir de mémoire enfin rempli.
Envers les 1772 hommes morts au combat durant la Première Guerre mondiale sur le théâtre africain, sous les couleurs britanniques, des militaires sud-africains en grande majorité noirs qui depuis plus d'un siècle donc n'avaient ni sépulture ni commémoration. Un mémorial a enfin été inauguré hier au Cap par la princesse Anne d'Angleterre. Des poteaux en bois, un par homme, où sont gravés les noms de chacun. Les familles ont fait part de leur fierté. C'est une des suites des excuses officielles présentées par Londres en 2021 après la publication d'un rapport accablant qui parlait de racisme généralisé, car au moins 100 000 soldats noirs et asiatiques sont morts au combat pour le Royaume-Uni sans jamais avoir été honorés.
Et puis nous voici en Norvège où l'arbitrage vidéo est en sursis.
Oui, les 32 clubs de foot pro du pays ont voté hier et à une large majorité, ils demandent à leur fédération de mettre fin à ce qu'on appelle la VAR dès que possible. Ça fait des mois que les supporters multiplient les actions. Ce chant que l'on entendait est devenu un classique en tribune. L'arbitrage vidéo ruine le football, scandent-ils. Durant certains matchs, on a vu bien certains supporters jeter des balles de tennis, des bouchons ou encore des croquettes de poisson sur les terrains. La technologie a du potentiel, mais la version actuelle de la VAR ne fonctionne pas suffisamment bien. C'est ce que dit le président de la Ligue de foot professionnelle norvégienne. La VAR, en place dans la plupart des grandes compétitions depuis plusieurs années, est très souvent critiquée, censée aider les arbitres. Elle complique parfois les décisions. Ça prend du temps. On l'a encore vu hier, par exemple, en Ligue des Champions avec le PSG. Plus de 2 minutes de flottement avant de valider un but pour un hors-jeu. Ce serait une première si la Norvège revenait sur la vidéo. L'Angleterre a failli le faire avant de finalement se raviser.
Moi, je suis fasciné par les croquettes de poisson. Excusez-moi, je suis resté là. Là.
Oui, j'ai l'image. J'aurais pas dû en parler, tiens.
Kevin, merci beaucoup. Vous partez en passant par Harvard. Tiens, bah, essayez d'apprendre des trucs.
Oui, bah, super.
C'est là que la chanteuse et le pianiste se sont rencontrés parce qu'ils ne voulaient pas travailler, vous l'avez ?
Pink Martini.
Voilà. Mais là, c'est Amado Mio, 1997. Martini, Amado Mio sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h, pile 49 ce soir, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Franck, aux États-Unis, le canal de Panama s'est invité dans le débat public. Trump veut en reprendre le contrôle. Et ce soir, vous nous dites pourquoi il faut le prendre au sérieux.
Oui, c'était il y a pile un mois, un meeting dans l'Arizona. Donald Trump réveille un débat oublié aux États-Unis. Il dénonce l'arnaque totale du canal de Panama, cette voie maritime entre l'Atlantique et le Pacifique. Il qualifie de ridicule les droits de passage imposés aux navires américains et montre du doigt l'ingérence de la Chine, d'où cette menace de reprendre le contrôle du canal. Trump évoque alors aussi ses vues sur le Groenland. On se dit qu'il lance des ballons d'essai, qu'il n'ira pas loin. Mais le nouveau président américain persiste. Comme pour le Groenland, il a parlé à plusieurs reprises en un mois du canal de Panama. Il n'écarte pas son annexion par la force. Et le sujet était en bonne place dans son discours d'investiture lundi.
Alors pourquoi Trump s'intéresse-t-il autant au canal de Panama ?
Alors d'abord, il y a l'histoire du canal. Un canal construit au début du XXe siècle par les États-Unis qui ont redonné les clés de ce canal au Panama en 1999 en vertu d'accords signés 22 ans plus tôt par le président Carter. Les textes garantissent la neutralité du canal, tous les pays peuvent l'utiliser, les droits sont fixés par le Panama en fonction du poids et de la taille des navires. Depuis près de 50 ans, des républicains estiment que Carter a commis une erreur en cédant le canal. Reagan lui-même en revendiquait la propriété, mais le sujet n'est plus du tout au cœur de la vie politique américaine. Trump fait un constat. Les États-Unis sont les principaux utilisateurs du canal aujourd'hui, 74% de la cargaison totale, et les droits de passage ont beaucoup augmenté. Il y a donc de l'argent en jeu.
Mais alors pourquoi Trump pense surtout à la Chine, non ?
Ben oui, c'est la cible du républicain dans cette affaire, la Chine. Trump affirme que la Chine exploite le canal de Panama. En fait, ce n'est pas le cas. C'est une autorité publique du Panama, mais Pékin joue un rôle dans l'administration du canal. Une entreprise chinoise exploite les ports à chaque extrémité de la voie, côté Atlantique et Pacifique. Le nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio, estime ainsi qu'en temps de conflit, la Chine pourrait bloquer le trafic. Les États-Unis s'inquiètent en fait depuis longtemps de l'influence de Pékin en Amérique latine, et le Panama est un bon exemple de cette tendance. Le pays a lâché Taïwan et rétabli ses relations diplomatiques avec la Chine en 2017. Il a rejoint le projet des nouvelles routes de la soie. Xi Jinping s'y est rendu un an plus tard. À Washington, la Chine est soupçonnée de masquer des intentions stratégiques au Panama, dont l'espionnage des navires.
Et Trump incite donc les républicains à agir.
Un texte doit être présenté aujourd'hui même par des sénateurs. Il appelle le Panama à couper tous les liens économiques et politiques avec la Chine et à expulser les Chinois qui opèrent dans ses ports. Alors rien de contraignant à ce stade, mais l'objectif est d'envoyer un message au Panama. Marco Rubio a même prévu, on l'a appris cet après-midi, d'y faire escale lors de son premier déplacement à l'étranger en février. De son côté, le président du Panama, José Raúl Mulino, répète que le canal est une fierté nationale dont son pays gardera le contrôle. Impossible de prédire ce qui adviendra de cette mini-crise diplomatique. Le champ des possibles va de la simple pression commerciale pour réduire les péages à l'option militaire. Une certitude, Trump et les Républicains n'ont pas lancé l'idée en l'air.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18-20.
Et Stéphane, vous revenez sur les images assez incroyables de la cérémonie d'investiture de Donald Trump lundi, cette brochette de patron de la tech, assis donc au premier rang. Que nous disent ces images de la Silicon Valley d'aujourd'hui, de l'état de la démocratie américaine et de ce qui vient ensuite ?
Oui, il y avait un carré VIP sous la rotonde du Capitole. Côté droit, du côté des Obama et des Clinton, la tech n'est pas en force entre le patron de LVMH, Bernard Arnault, et le président argentin, Javier Milei. On note juste la présence du nouveau cadre de Meta, le Trumpiste Dana White. Mais côté gauche, on ne voit que eux, les tech bros, les broligarques, les barons de la tech, en majesté sous les ors du Capitole. Le PDG mondial de TikTok, Xu Zhishu, est assis juste à côté de la nouvelle chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, ce qui paraît assez fou. Juste devant le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., Mark Zuckerberg discute avec la femme de Jeff Bezos. Un peu plus loin, le boss de Google, Sundar Pichai, se marre avec Elon Musk. Le patron d'Apple, Tim Cook, est juste derrière et il fait un peu la gueule. Bref, tous les GAFAM sont là, à part Microsoft. Il faut ajouter Sam Altman, qui n'est pas loin dans la salle. Sur CNN, les commentateurs n'en reviennent pas.
Et puis, éparpillés un peu partout, il y a... Ce sont les PDG de la tech, c'est bien ça ?
Eh oui, il n'y a que ça. On dirait qu'il n'y a qu'eux qui ont accès au premier rang, c'est incroyable. Les gouverneurs et les parlementaires sont littéralement relégués en salle d'attente. Tous ces types, il faut quand même qu'on rappelle ça aux gens, tous ces types ont payé pour être là. Mark Zuckerberg et Meta, ils ont signé des chèques $1 million. Et un chèque $1 million, eh ben, manifestement, ça vous permet d'être là au premier rang.
C'est CNN États-Unis, hein, c'est pas CNN Europe. Hein. Le site The Verge, bible des technophiles, titre « Bienvenue dans l'ère des gangsters de la tech ». Leur point commun, selon The Verge, ils font presque tous face à des poursuites judiciaires existentielles. Apple est en attente d'un procès antitrust, Google vient d'en perdre un, et Meta pourrait être forcé de vendre Instagram et WhatsApp. Nos seigneurs de la tech ont tous des problèmes, écrit The Verge, et ils veulent acheter les solutions à ces problèmes.
Et donc vous avez convoqué trois grands spécialistes de la Silicon Valley, Stéphane, pour comprendre ces images.
Oui, premier témoin, Fabien Benoît, auteur du livre The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, sous-titre La Silicon Valley contre la démocratie, sa première réaction.
Ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, ça permettait de remettre la Silicon Valley à sa place. On a sans doute trop surestimé l'influence des années 60, du mouvement hippie, de la nouvelle gauche dans l'ADN de la région. On a voulu la voir comme l'aiguillon avancé du progressisme, alors que finalement, ce qu'il faudrait peut-être retenir de l'histoire de la Silicon Valley, c'est à quel point les racines libertariennes qui l'ont traversée sont profondes. Et quand je dis ça, je pense au libertarianisme comme volonté de réduire l'État à son minimum, comme idée de nier toute égalité entre les citoyens et de promouvoir le marché comme unique facteur de régulation sociale.
Pour Fabien Benoît, on n'a pas voulu voir la vraie nature de ce qu'était la Silicon Valley et de ses capitaines d'industrie, et c'est ça qui nous a éclaté au visage lundi.
Quand on reparcourt l'histoire de la Silicon Valley, qu'il s'agisse du fondateur de Stanford, donc qui est l'épicentre en fait de la Silicon Valley, l'Ivan Stanford à la fin du 19e siècle, qui avait une vision très raciste en fait de la société, qui était une des figures des barons voleurs. Quand on passe par Lewis Terman, des pensionnaires de Stanford qui a inventé le test du QI et qui pensait que le gouvernement d'une société, d'un pays, c'était un gouvernement par les élites les plus intelligents. Toute l'histoire jusqu'à la mafia PayPal, évidemment, hein, Peter Thiel, Elon Musk et David Sachs, qu'on retrouve aujourd'hui en charge de l'IA et des crypto-monnaies, attestent d'un passé très conservateur, misogyne, homophobe...
Alors, deuxième témoin, l'ingénieur Luc Julia.
Oui, spécialiste de l'intelligence artificielle, co-inventeur de l'assistant vocal Siri et star du documentaire This is Silicon Fucking Valley, que je vous conseille vivement, c'est en ce moment sur Arte. Luc Julia est connu pour son franc-parler, vous allez comprendre pourquoi. Voici sa réaction quand il a vu les images.
Globalement, déception. Je me suis dit, je suis déçu pour certains des employés qui pensaient encore que leur dirigeant n'était pas comme ça. Zuckerberg, c'est très bien que ça tombe parce qu'il est temps qu'on sache quand même que c'est un gros connard. Mais les autres, Bezos, ça fait un petit moment, c'était peut-être 6 mois qu'il s'est rallié, plus ou moins. Et l'autre, Musk, bon, bah lui, on sait ce qu'il en est. Cook, je suis très emmerdé pour Cook, en fait. Parce que je me demande ce qu'il est venu foutre là, il n'était pas obligé, il n'avait pas à être là, quoi. C'est vraiment purement business. Et... Donc oui, non, c'est l'opportunisme pur, oui. Et c'est là que ça pue. Alors, c'est peut-être quand on devient vieux, je ne sais pas.
C'est Luc Julia. Il pense que c'est vraiment la présence de Musk au sommet de l'État qui a poussé tous les autres moguls de la tech à faire allégeance.
Comme on a quand même 2 timbrés à la tête de l'État, là, dont un qui connaît bien la vallée et qui en a bien profité, connaît les rouages et donc il sait comment la casser. Je pense que les Zuckerberg et autres se sont dit il vaut mieux que je me rallie plutôt que j'essaye de résister.
Et tout ça l'inquiète beaucoup pour la suite.
Tout ça, c'est la même clique des gens qui sont des gros menteurs. Hein. Donc, les Musk, les Altman et tout ça, c'est des menteurs qui créent ces IA autour de choses qui sont des aberrations écologiques. Et évidemment, quand il y a un Trump au pouvoir, ils vont pouvoir développer leur machin avec leur petite centrale nucléaire, des trucs qui vont péter beaucoup d'électricité, qui vont gaspiller beaucoup d'eau. Donc là, c'est la fête du slip pour eux.
Il n'est pas impossible qu'on reçoive un tout petit peu de courrier. Dernier témoin, une chercheuse.
Oui, Cécile Momeja, spécialiste des États-Unis et de l'histoire de la baie de San Francisco. Pour elle, Donald Trump a cloné son modèle de club privé de Mar-a-Lago. D'ailleurs, le ticket d'entrée est au même prix, $1 million.
On se retrouve avec ces tech bros, cette nouvelle broligarchie qui se retrouve sur le devant de la scène, qui font maintenant partie de ce nouveau club privé. À la manière dont fonctionne Trump, hein, on pense à Mar-a-Lago avec les frais pour devenir membre qui sont passés à $1 million en août dernier.
À Mar-a-Lago, vous payez pour une plage privée, des spas de luxe et du réseautage. à Washington, l'avenir nous le dira. Dans les premières années de Facebook, Mark Zuckerberg répétait une sorte de devise « Move fast and break things ». C'était même écrit sur des murs de l'entreprise. « Allez vite et cassez les choses ». Le slogan va comme un gant à Donald Trump.
Bah dites-moi, tiens, $1 million pour pouvoir chroniquer ouais. Un jour dans le monde. Oh ben, tout de suite, ça va changer notre vie. Allez Stéphane, merci beaucoup, à jeudi prochain.